Afterwork ce vendredi, on est ensemble jusqu'à 19h évidemment. Afterwork spécialement dédié au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Le festival bat son plein ici en centre-ville jusqu'à dimanche. Seb, nous continuons de recevoir nos invités ce vendredi soir. Je te laisse présenter l'artiste ici en studio.
La bande dessinée sur le thème des injonctions à la parentalité, c'est le sujet de l'ouvrage intitulé Maternité, miracle et malédiction. Et pour en parler, nous accueillons l'artiste et conférencière Noémie Fachan, alias Médusa. Isa Gorgone, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler du livre, parlons un petit peu de vous. Conférencière, autrice et créatrice de contenu sous un angle féministe, quel est votre parcours, quels sont les sujets que vous portez et qu'est-ce qui vous a amené à choisir la bande dessinée comme moyen d'expression?
Voilà, que de questions.
Vaste sujet, vous avez 2 heures.
C'est parti, je vais essayer d'être concise, c'est pas ma plus grande qualité. Alors, mon parcours, moi je suis diplômée en communication, mais j'ai jamais travaillé dans la communication. J'ai vécu 8 ans au Japon parce que c'était mon obsession de jeunesse d'aller vivre à Tokyo.
Incroyable.
Paris réussi, 8 années sur place. Oui. Et puis retour au pays, à La Rochelle, charmante petite ville pas très loin d'Angoulême, parce que mes parents s'étaient installés là pour leur retraite, donc c'était vraiment l'endroit idéal pour revenir en France. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le tourisme. Et 2020, tac, le tourisme pas super pour 2020. Et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment dans ma vie? Dessiner, ce que j'avais toujours fait depuis toute petite. Et voilà, Maédusa est née comme ça, mon héroïne, ma gorgone d'aujourd'hui, qui prend la parole à ma place pour dénoncer les inégalités de genre sur Instagram, est née en février 2021.
Et justement, voilà, Maédusa Gorgone, c'est votre alias, le personnage qui prend la parole publiquement à travers vos œuvres. Et on vous trouve donc sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit, Instagram, sous ce nom-là également. Alors pour notre auditoire qui n'a pas encore lu vos travaux, quel est le sens de cet alias teinté de mythologie?
Et oui, alors passionnée de mythologie depuis toujours, j'ai toujours été en grande sororité avec ce personnage malmené qu'est Méduse, la Gorgone, dans les œuvres classiques. On la présente comme un monstre, on la présente comme... est une victime de violence sexuelle, mais qui est culpabilisée pour ça. Et donc moi, j'ai toujours été très révoltée à la lecture de ce mythe. Et donc bien plus tard, il y a quelques années seulement, j'ai décidé qu'elle allait représenter la rage de toutes les personnes sexisées, donc les personnes qui font face au sexisme dans leur vie quotidienne. Et c'est comme ça que j'ai brodé tout un univers autour de ce personnage-là. Les hommes un petit peu relous qui nous disent des choses sexistes sont des percées, quelque chose qui rime, hein, donc voilà, percer Charlot, percer Antoine, ça dépend du contexte. Toutes les femmes et les personnes LGBTQIA+ sont représentées avec des serpents sur la tête.
Donc voilà, vous avez renversé le mythe d'Athéna et Méduse pour justement éviter cette double voire triple punition que subissait Méduse dans la mythologie originale.
Exactement.
Maternité, miracle et malédiction, c'est donc la bande dessinée que vous êtes venue présenter sur cette édition 2024 du festival, une série de portraits pour questionner les injonctions à la parentalité. Vaste sujet là aussi que la parentalité, à commencer par le fait de vouloir ou pas des enfants, puis à quel âge, sous quelles conditions, des sujets qui occasionnent des débats, des divergences d'opinion et beaucoup, beaucoup de jugements et de remarques déplacées. Comme tout être vivant sur cette planète, vous n'y avez probablement pas échappé. Est-ce que c'est la quantité d'injonctions et leur omniprésence qui vous a poussé à y consacrer un album entier?
Oui, absolument. Moi, j'ai l'âge terriblement touchy de 39 ans. Donc, en fait, je ne peux pas aller consulter un podologue sans qu'on me dise date de naissance. Vous avez des enfants? Et vous comptez en faire? Donc, que ça soit dans la sphère médicale, dans la sphère privée, finalement, quand j'étais à La Rochelle, la plupart des gens de mon âge étaient en couple avec des enfants en bas âge, et très souvent la question de « et alors toi, quand est-ce que tu t'y mets ?» c'était un petit peu comme parler de la pluie et du beau temps. Et voilà, donc que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans le cadre médical, j'ai été poursuivie par cette pression de faire des enfants. Et moi, je fais partie du peuple, je crois, assez vaste de personnes qui sont très contradictoires par rapport à la parentalité. Je n'exclus pas totalement, même si j'approche dangereusement de la quarantaine, de peut-être devenir maman, mais c'est pas du tout sûr. Et donc tout ce livre là et c'est sont en effet les interrogations de mon avatar Maédusa, et puis aussi par extension les injonctions faites à la parentalité de manière large, donc celles qui incombent aussi finalement, enfin qui tombent sur les personnes qui décident ou qui sont parents, qui l'aient décidé ou pas d'ailleurs.
Effectivement, et c'est vrai que quand on entend les injonctions à la parentalité, alors vous l'avez particulièrement vécu. On peut le vivre de manière moindre, mais dans tous les cas, on a l'impression que les gens, on se demande s'ils font des enfants pour leur bonheur et pour eux, ou juste pour être bien vus, en fait, ou pour pouvoir le montrer aux autres.
Oui, alors évidemment, sans culpabiliser les personnes, c'est plutôt dans quelle société on est, à quelle société on participe, en fait, pour mettre autant de pression sur les individus pour que, en effet, ils se reproduisent. C'est un sujet d'actualité brûlant, puisque dans l'actualité, on parle beaucoup de réarmement démographique depuis une semaine. Ouais. Donc finalement, la BD tombe à point. On voit que elle n'était pas superflue, cette BD. Elle est nécessaire parce que, en effet, pourquoi faire des enfants? Apparemment, il y a un agenda politique pour nos dirigeants. Mais à titre personnel, bien sûr, on est aujourd'hui armé de la contraception pour ne pas forcément être parent. Et voilà, c'est à chacun de se poser les bonnes questions. Alors évidemment, tout n'est pas non plus complètement sous contrôle dans la vie. Donc encore une fois, solidarité totale avec les parents, que la parentalité était un choix complètement conscient, ou bien aussi quelque chose qui est arrivé sans que ce soit complètement décidé et contrôlé. Mais solidarité aussi avec toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, qu'elles soient child free, donc c'est-à-dire qu'elles soient décidées à ne pas avoir d'enfants, ou qu'elles soient simplement dans le doute et dans la contradiction par rapport à ça.
Et donc à travers vos gorgones, vous dépeignez tout un tas de concepts liés à la parentalité, aux stéréotypes de genre, aux rapports sociaux, aux rapports à son propre corps. Vous prenez le temps de les décortiquer, on sent que ça fait partie de votre culture et que vous avez creusé les sujets. Est-ce qu'il a fallu les creuser plus en détail encore quand vous vous êtes lancé dans ce projet de livre ?
Oui, absolument. En fait, au-delà d'être une femme et donc de subir le sexisme, moi je suis une personne très privilégiée, je suis blanche, je viens de la classe moyenne, je suis valide, je suis hétéro et cisgenre en plus de ça, donc j'ai vraiment beaucoup de privilèges. Et en fait, cette pression à la parentalité, elle est encore plus compliquée et pétrie de contradictions pour toutes les personnes qui sont moins privilégiées que moi. Les personnes blanches sont souvent en effet pressurisées pour avoir des enfants, et puis un deuxième, et puis pourquoi pas un troisième, alors que quand on est une famille nombreuse non blanche, on n'a pas du tout le même regard social qui est posé sur nous. Ça va être la même chose pour les parents qui sont handicapés. Il y a aussi énormément de pression sur mais finalement il faudrait faire des enfants, mais il faudrait être sûr qu'ils soient en bonne santé. Et puis quand on est un parent handicapé, on va bien davantage être scruté dans ses moindres faits et gestes. Est-ce qu'on est un bon parent ou pas? Est-ce que on est capable de s'occuper de ses enfants, chose qu'évidemment les parents valides ne connaissent pas, ou en tout cas pas autant. Donc c'est la maternité ou la parentalité de manière large. En fait, c'est comme mettre une loupe sur les discriminations, toutes les discriminations qui parcourent notre société, donc le racisme, donc le validisme, etc.
Oui, c'est fou parce que ça peut inquiéter des gens. Et justement, j'avais une question là-dessus. Vous abordez la parentalité et notamment la grossesse par des personnes transgenres, ce qui rappelle évidemment la panique morale d'une certaine frange de la population lorsque le planning familial avait publié une affiche à l'attention des hommes transgenres voulant enfanter. Une affiche qui voulait dire simplement « On sait que vous existez, on pourra peut-être vous aider, n'hésitez pas à venir nous voir » et qui a suscité des moqueries et de la peur. Alors, est-ce qu'il existe à votre connaissance, vu que vous avez fait des recherches, des éléments qui permettent d'expliquer un petit peu ce que j'appellerais un peu cette fragilité ou cette misère intellectuelle qui pousse les gens à la panique dès que quelque chose ne leur ressemble pas?
Merci de faire référence à cette affiche du planning familial, et j'en profite pour rendre hommage à Laurier de Fox, qui est l'illustrateur de cette affiche et qui a en effet subi une vague de harcèlement absolument immonde sur les réseaux. Et c'est très complexe, mais on est dans une société qui reste extrêmement normée. Et justement, la question de la parentalité, il faut le faire vraiment dans les clous. Donc un enfant, oui, mais pas trop tôt, pas trop tard, dans les bonnes conditions, à condition de ne pas peser sur la société. Il faut avoir les moyens, etc., etc. Donc finalement, la question de la parentalité transgenre, elle est très mal perçue par toute une population qui est encore profondément transphobe, ou en tout cas qui a des biais transphobes, même inconscients. Ça ressort à ce moment-là, oui, bien sûr. Je pense qu'une partie assez conséquente de la population française n'a pas vraiment de problème avec les personnes transgenres et les personnes ou la transidentité en général, sauf si ça touche à la parentalité, si ça touche à ce qui est montré dans les œuvres artistiques, il faudrait pas bousculer leurs repères à eux.
Merci. exister, mais pas trop, quoi.
Oui. ou en tout cas exister d'une certaine façon, de la bonne façon, la façon hétéro, la façon occidentale, la façon blanche, la façon valide. On a finalement, dans ces moments-là, on se rend compte à quel point notre société est intolérante, malgré les discours humanistes ambiants qui voudraient faire croire que tout va bien. Les discriminations sont bien réelles, et notamment dans l'accès à la parentalité, on voit clairement qui est discriminé.
Passons sur votre style graphique, qui est très coloré, avec un trait net et des tons purs, une identité visuelle assez marquée. Ça vous a demandé combien de temps d'expérimentation pour le mettre au point ?
Alors j'avoue que je l'ai fait un peu à l'instinct, en fait. Quand j'ai lancé cette page Instagram, assez rapidement, je me suis dit que pour que ça soit joli, quand on regarde ma grille, il fallait rester dans une palette assez réduite. Donc j'ai choisi 9 tons pastels, et ça fait 3 ans que je m'y tiens sur le compte Maïdusa. Et c'est comme ça qu'on me reconnaît. J'ai pas plus élaboré que ça, je vous avoue. Je l'ai fait de manière un peu instinctive, et comme ça marche, je me suis dit, on va garder cette recette.
Ça crée une identité, effectivement, une identité visuelle. Vous êtes également conférencière. Alors devant quel auditoire et sur quel sujet peut-on vous entendre ?
Alors, je suis conférencière sur la question du sexisme ordinaire, notamment dans un contexte de travail. Donc, c'est surtout les entreprises qui vont me démarcher pour intervenir face aux employés, pour venir leur parler de biais cognitifs sexistes et de toutes ces pratiques sexistes qu'on a encore dans le milieu du travail, comme le man-interrupting, le mansplaining, l'hypersexualisation des collaboratrices. Donc, voilà, moi, j'indique d'où ça vient, en fait, en quoi tous et toutes nous y participons, parce que nous avons tous et toutes des biais sexistes intériorisés ou extériorisés, mais en tout cas on les a, on fait partie de la société, quel que soit notre genre, et donc on participe à ça. Et sinon, d'autres organisations font appel à moi pour parler d'inclusivité, comment utiliser l'art pour aller contre les discriminations. Donc je peux également intervenir, par exemple la ville de Montpellier a fait appel à moi à l'occasion du 8 mars dernier. Voilà, donc je suis une conférencière qui s'adapte finalement à son audience.
Ça marche. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, nous sommes des individus, mais qui sont mus et façonnés par des biais, par une culture. Et donc du coup, au final, oui, c'est vrai que la clé, c'est peut-être de se dire, on n'est pas parfait. On est forcément, teinté de certaines choses qui sont problématiques. Et réfléchissons-y ensemble, essayons effectivement de trouver une porte de sortie. Votre histoire avec le festival de la bande dessinée, vous en avez fait combien ? Est-ce que vous venez souvent ?
C'est mon premier festival de la bande dessinée à Angoulême. Alors j'ai participé à celui de Saint-Malo à l'automne dernier. C'était mon tout premier festival et c'était formidable. Et c'est la première fois à Angoulême. C'est une expérience incroyable. Je suis vraiment très très contente et je la partage avec beaucoup de co-auteurs et de co-autrices que j'admire beaucoup. Donc c'est formidable.
Oui, vous êtes en dédicace donc à la librairie Lille aux Images, c'est bien ça ?
Alors je suis en dédicace à la librairie Lille aux Images, mais aussi sur le stand des éditions Le Du Graphique pour défendre mon autre bande dessinée qui s'appelle L'Œil de la Gorgone. Et donc je suis présente jusqu'à dimanche, n'hésitez pas à venir me voir.
Effectivement, donc vous avez plusieurs ouvrages. C'est vrai qu'on a parlé, de l'ouvrage sur la maternité, mais est-ce qu'il y a d'autres effectivement choses que vous êtes venu, vous avez parlé du livre des Gorgones, mais d'autres choses aussi également.
J'en suis à 2 titres. D'accord. Comme c'est ma première année en tant que qu'artiste auteur, j'arrive déjà avec 2 bandes dessinées. C'était déjà beaucoup de boulot.
Oui, déjà parce qu'au final les deux sont sortis l'année dernière en fait.
Exactement, Maternité Miracle et Malédiction est sorti aux éditions Attier en août dernier, et L'œil de la Gorgone aux éditions Le Duc Graphique. C'était le 31 octobre, donc elles se sont vraiment succédées. Et je suis très contente de pouvoir représenter les deux, Maternité à Lille aux Images, samedi matin, et L'Œil de la Gorgone sur le stand des éditions Le Duc jusqu'à dimanche.
Ça marche. Côté réseaux sociaux, vous qui êtes également créatrice de contenu, vous avez dit qu'on pouvait retrouver sur Instagram ?
Exactement, Maïdusa Gorgone.
Avec un petit trait
bas. Oui, en effet, Maïdusa _ Gorgone.
Et au niveau des projets en cours et des projets futurs, est-ce que... Bon, j'imagine que vous avez, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ça se rend plutôt vers la BD, vers la vidéo, vers.
Oui, on va continuer sur la BD pour l'instant. Il va y avoir une suite à Maternité, Miracle et Malédiction qui va s'appeler Éducation, Écueil et Émerveillement. Oui. Donc quelques années plus tard, toujours d'autres dilemmes par rapport à l'éducation des enfants. Et puis L'Œil de la Gorgone va également avoir une suite. Et ça s'appellera La Voix des Harpies. On reste dans la mythologie.
Très bien, une belle exploration de la mythologie, donc sous l'angle féministe.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et bon festival.
Merci.